Major Ferrand, bonjour.
Bonjour.
Major Éric Ferrand, je devrais dire. Vous êtes donc membre du SDIS, le service départemental d'incendie et de secours de l'Allier.
Oui.
On va faire connaissance avec ce service qui est vraiment rendu à tous ceux qui, sur la route, ne se comportent pas peut-être comme ils devraient se comporter. En tout cas, vous intervenez chaque fois qu'il y a besoin. Vous intervenez aussi, d'ailleurs, en dehors de la route, puisque
oui,
vous avez des services d'incendie. Il y a moins d'incendies dans l'Allier que dans les départements du sud de la France, quand même.
Oui, enfin, le pourcentage d'incendies chez les pompiers, c'est 6 à 7% des interventions. Donc après, du secours à personne, des interventions diverses.
Oui, parce que vous n'intervenez pas que sur les routes de...
Non, vous n'intervenez pas que sur les routes.
À la demande, en fait, chaque fois qu'on fait le 18.
Voilà, donc chaque fois qu'on fait le 18... on reçoit une demande d'intervention. Donc si c'est du ressort des sapeurs-pompiers, on intervient. Et parfois, c'est pas toujours du ressort des sapeurs-pompiers.
Donc vous réorientez.
Voilà, sur différents
services. C'est le seul rôle au standard qui est équipé pour ça. Alors j'ai dit, ça veut dire service départemental d'incendie et de secours. Vous êtes en fait pas sur un seul lieu dans le département.
Non,
Comme sous beaucoup d'organisations départementales, vous êtes divisé en trois,
Moulin, Vichy, Montluçon. En quatre avec la direction départementale. Donc toutes les alertes arrivent au niveau du centre de traitement d'alerte qui se trouve rue de Refond pour l'instant, puisqu'il va déménager d'ici fin 2010. Les centres de secours sont répartis autour d'un centre de secours principal, donc trois dans le département, Montluçon, Vichy et Moulin. Et autour de ces centres de secours gravitent des centres de secours volontaires.
Mmh. Voilà. Donc, et vous-même, vous êtes sur Moulin?
Voilà, moi je suis sur Moulin. Donc Moulin, le centre de Moulin, Vichy et Montluçon, on trouve des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. Et après, les centres qui arrivent autour sont exclusivement armés par des sapeurs-pompiers volontaires.
Mmh. Et donc votre mission sur Moulin, elle est la même, j'allais dire, sur Moulin, Vichy et Montluçon.
Ah, oui,
même, j'allais dire, le même aussi que dans le nord de la France, que dans le sud de la France.
Nous sommes au service de la population.
Au service complet. Et vous êtes
24 heures sur 24.
Vous êtes professionnel.
Moi, je suis professionnel et volontaire dans un petit centre de secours.
Alors, quelle est la différence? Enfin, on l'entend bien, mais peut-être la préciser.
La différence, c'est qu'un professionnel, c'est son métier. Voilà, on a passé un concours et on est rentré sapeur-pompier professionnel. Un volontaire, en plus d'être au service de la population, il a son travail de tous les jours dans le privé, à l'usine.
Ce qui veut dire que quand vous êtes chez vous et que si jamais il y a un accident non loin du village où vous vous trouvez, vous pouvez y aller?
Je peux intervenir.
Ouais.
En tant que sapeur-pompier volontaire.
Ça fait un peu double journée, j'allais dire, non?
Double journée, non, mais bon, en étant pompier professionnel et habitant une petite commune où se trouvent des sapeurs-pompiers volontaires, je me voyais mal pas participer à la vie de la caserne des pompiers volontaires.
Parce qu'en fait, c'est dans vous, vous ne voyez pas dire non, quoi. Vous ne pas vous dire, écoutez, non, là, mettons, bon, ça va.
Voilà, moi, c'est une passion pour moi, donc...
Mais c'est plus qu'un métier, finalement, on vous entend.
Je pense que pour être pompier, faut pas prendre comme un métier. Enfin, je veux pas dire que les autres métiers sont pas intéressants, mais voilà, c'est particulier.
C'est-à-dire que vous avez voulu faire ça, c'est que vraiment vous désiriez.
C'est une motivation, c'est une envie. Comme d'autres métiers,
bien sûr,
les infirmières, les aides-soignantes, tous ceux qui participent un petit peu, qui sont en contact des gens, je pense qu'il faut, il faut aimer ça.
Pas trop dur parfois.
Si, il y a des périodes difficiles, mais bon, voilà, après, on a un travail à faire, il faut qu'on fasse. Mais on est comme tout le monde, on a des réactions, on n'est pas des héros, on n'est pas des vedettes, on fait notre travail, et des fois, c'est difficile.
Parce que quand vous tombez sur un cas un peu grave, et puis que vous ne pouvez rien faire, vous avez un sentiment d'impuissance qui est peut-être dur à assumer, pour vous, secouriste.
Déjà, rien faire, mais comme je dis, j'en fais quelques stages où il y a des jeunes, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Des choses qu'on ne peut pas maîtriser, c'est comme ça.
Il faut accepter ça.
Il faut l'accepter, mais bon, si on a fait notre travail correctement, qu'on a tout mis en œuvre pour faire le maximum pour aider les gens, on ne peut pas se reprocher non plus ce qu'on ne peut pas maîtriser.
Alors comment ça se passe une intervention? Vous êtes appelé, on vous dit un accident à tel endroit. Comment ça se passe?
Du centre de traitement d'alerte, ils reçoivent un appel pour n'importe quel type d'intervention, ça peut être un feu, un accident, un IGP, une inondation. Donc cette intervention est retransmise dans les centres de secours. Hein, et après, les gens sont appelés soit par des bips, au cas de la caserne, où il y a des professionnels, ils sont sur place, donc on est tout de suite au courant de l'intervention et on part immédiatement. Quand c'est dans les centres volontaires, ben, il y a un petit peu plus de temps, c'est normal, puisque les volontaires sont à leur travail ou sont chez eux. Donc ils mettent un petit peu plus de temps, ce qui est logique. Et puis après, ben, suivant l'intervention, avec le renseignement qu'on a, ben, on fait partir tel type de véhicule pour tel type d'intervention.
Tel véhicule, tel. Voilà.
Avec le personnel
nécessaire, place.
Nécessaire à armer les véhicules.
Parce que bon, les professionnels, ils sont sur place pour les appeler. Mais les volontaires, il faut les appeler. Comment ça se passe?
Alors, c'est par transmission d'alerte, par des bips.
C'est des gens qui acceptent de se promener avec un appareil.
Tout à fait.
D'accord. C'est plus la sirène comme autrefois.
Bah, la sirène fonctionne encore dans certaines communes.
Avec un certain nombre de coups sur le.
Bon, il y a de moins en moins maintenant les sirènes, il y a très peu qui fonctionnent, mais moi je vois dans ma commune à Besson, elles fonctionnent encore. Mais on a toujours les bips sur nous, même les professionnels d'ailleurs. Hein. Ouais. Et le déclenchement d'alerte se fait par les bips.
Donc vous disiez, vous évaluez l'importance de l'accident. Quel est votre souci premier quand vous avez un appel comme ça? C'est à quoi vous pensez en premier? Qu'il faut pas oublier.
Sur un accident, enfin, si vous prenez les accidents de la route, en premier.
Parce qu'on parle surtout. On va parler surtout d'accidents de la route, oui.
En premier, je pense qu'on pense à la gravité de l'accident. On sait que sur certains endroits, on a l'habitude que ce soit des accidents assez graves.
D'ailleurs, on ne va pas la nommer, mais on y pense tous, ça a l'air assez grave.
Oui, tout le monde le sait, de toute façon. On sait que voilà, c'est des endroits où on risque d'avoir beaucoup de travail et des fois beaucoup de difficultés à sortir les gens, à essayer de leur apporter un maximum de secours.
Parce que votre mission, elle, parce que souvent sur un accident, vous n'êtes pas les seuls. Vous savez, forcément, il y a les gendarmes.
Notre mission, la première mission des sapeurs-pompiers sur un accident, c'est d'être auprès des gens pour les sortir des véhicules, pour leur apporter les premiers secours. Et de pouvoir les dégager dans la meilleure condition possible, de pouvoir leur apporter les secours dans la meilleure condition possible, toujours en travaillant avec le SAMU, la gendarmerie. Nous, notre mission, c'est de pouvoir s'occuper des gens dans les meilleures conditions possibles et de les emmener à l'hôpital.
Bien sûr. J'allais dire, vous travaillez avec le SAMU, donc il y a des choses que vous faites que ne fait pas le SAMU et réciproquement.
Bien sûr, le SAMU est là pour médicaliser. Puisque leur équipe sont constituées de médecins et d'infirmiers. Nous, on est là pour apporter vraiment les premiers secours.
C'est ça, donc c'est vous qui êtes les premiers sur le terrain.
Et bien sûr, avec notre spécialité en accident de la route, c'est la désincarcération et le secours routier.
Je suis toujours sur RCF Allier avec le major Éric Ferrand du service départemental d'incendie et de secours, le SDIS, SDIS-03 de l'Allier, et plus spécialement sur Moulins, sachant qu'il y a d'autres équipes sur Vichy et Montluçon. Et donc, on a vu un peu comment ça se passe pour vous de votre côté. J'allais dire de l'autre côté, c'est-à-dire pas forcément peut-être celui qui est victime d'accident parce que peut-être qu'il a perdu connaissance, mais quelqu'un voit l'accident. Qu'est-ce qui vous paraît le plus important à dire? Vous êtes victime, vous êtes en état de pouvoir appeler ou vous assistez à l'accident. Quel est le premier réflexe à avoir? Je suppose un téléphone, faire 18.
Le premier réflexe, c'est évidemment d'appeler les secours. Mais on sait que les gens, quand ils assistent à un accident, ils sont un peu affolés, ils ont le stress qui monte. Et en appelant les secours, ils ne donnent pas toujours forcément les bons renseignements, même si à l'autre bout du téléphone, il y a des professionnels qui ont l'habitude de prendre des appels, donc ils vont les questionner au maximum. Donc voilà, ce qu'il nous faut, c'est que les gens qui appellent soient le plus précis possible. S'ils appellent pour un accident, il nous faut les renseignements, le nombre de véhicules, le nombre de victimes, l'adresse exacte. L'état des victimes, ils ont des notions de secourisme, il faut être le plus précis possible pour qu'on puisse envoyer les bons véhicules sur l'accident.
Moi, j'avais entendu dire que les personnes qui sont standards, donc au SDIS, au centre d'appel, sont formées pour garder les personnes le plus longtemps possible, pour avoir le maximum de renseignements possibles, c'est cela.
L'opérateur qui va prendre l'appel, il va pas lâcher la personne.
Tant qu'il n'a pas assez de renseignements.
Et ils ont l'habitude, ils vont les questionner au maximum pour que nous, on puisse arriver avec les moyens nécessaires.
C'est une façon un peu de faire, ça, c'est assez spécifique quand même.
Oui, mais bon...
D'arriver à calmer quelqu'un qui est à l'autre bout du fil et qui est affolé.
Ouais, enfin, les gens sont formés pour ça, et puis après, c'est une habitude. Voilà, c'est l'expérience qui fait que...
Moi, je me souviens, c'était, bon, mes enfants étaient tout petits, ils s'étaient battus, on n'était pas là. Il y a un enfant qui s'était coincé un doigt dans le porte, et elle appelait tout de suite la fille, le réflexe d'appeler ma sœur, etc. Et c'est vrai que ce qui m'avait frappé, c'est ce qu'il me racontait après, hein, c'est que la façon dont elle avait calmé l'enfant pour qu'elle soit à même d'assurer les premiers secours, consistait à mettre le doigt dans un classement.
Oui, mais bon, les
ça, c'est une formation spécifique quand même pour cela.
Ouais, spécifique peut-être pas, mais bon, les opérateurs, ils sont avec l'habitude, voilà, ils arrivent à questionner les gens, à avoir le maximum de renseignements, voire les aider si vraiment, voilà, après tel type de situation, c'est des pompiers, hein, de toute façon, ils savent, la plupart, soit sont pompiers professionnels, soit sont pompiers volontaires. Donc ils connaissent les actes de secourisme, ils connaissent les différentes protections qu'il faut faire sur certaines situations. Donc voilà, ils peuvent déjà discuter avec la personne et dire voilà, il faut que pour tel type de situation, vous pouvez déjà faire ça. Donc l'intervention commence déjà à l'alerte.
C'est ça, elle commence déjà au téléphone.
Oui, bah oui. Mm. Donc,
alors vous intervenez souvent, vous n'avez peut-être pas de chiffre en tête parce que c'est, je ne pense pas que ce soit des choses qui vous importe le plus
que
pour vous. Je pense que c'est peut-être pas le plus intéressant. Mais quand même, quand vous intervenez plus souvent sur route, sur des accidents domestiques, quelle est en gros la proportion?
On fait beaucoup d'accidents domestiques. Beaucoup d'accidents domestiques, malaise. Après, accidents de la route. Les feux, on en a parlé tout à l'heure, un peu moins. Et puis tout ce qui est opérations diverses, c'est de moins en moins important, puisque une intervention toute bête qu'on fait de moins en moins, c'est sorti pour destruction d'insectes.
Et vous ne faites plus, on m'a dit, même vous ne faisiez plus.
C'est pas qu'on fait plus, s'il y a une urgence, notamment des enfants qui seraient menacés éventuellement par les liés, là on va le faire parce que c'est de l'urgence. Mais maintenant des petites entreprises sont montées. Donc c'est fait.
Et vous ne le faites plus parce que vous n'avez plus le temps matériel de le faire, parce que c'est...
Non, c'est que voilà, il y a des petites entreprises qui sont montées qui s'occupent de la destruction des insectes.
Parce que vous savez, maintenant, il y a le fameux frelon asiatique bien dangereux. Là.
Oui, je crois que sur le département, pour
pas
moi,
encore,
on n'a pas trop le en garde.
Mais... Donc vous intervenez sur... Alors plus finalement d'accidents domestiques que la route ou...
Oui, l'accident domestique, malais, c'est, je dirais, à peu près 70% de l'intervention.
Ah oui. Donc moins la circulation. Alors, dans la circulation, on a parlé de...
Alors, je n'ai pas le pourcentage des accidents de la route,
oui,
mais c'est quand même un peu moins,
heureusement. Et quand on parle de circulation, les interventions se font plutôt sur les grandes routes, je pense, bien sûr, on pense à l'RCE, la Nationale 7 aussi, parce qu'elle est sur votre territoire, que sur les petites routes.
Nous, on a l'exemple... On ne peut pas dire le contraire, parce que bon...
Ouais. C'est presque une fois par mois, là, c'est vrai.
Je dirais même plus que ça.
Plus que ça.
Je sais pas, j'ai pas les chiffres.
Ça vous fait peur de voir quand vous êtes arrivé à un accident des RCE, hein,
comme... Ah bah moi, c'est simple. Quand je peux l'éviter, je le préfère. D'ailleurs, je pense que tous les gens évitent les RCE, parce que bon...
On a constaté que les accidentés des RCE ne sont pas des 0,3.
Oui, parce qu'ils la connaissent, et puis... Et puis on a toujours, moi j'ai, sans parler des pompiers, mais j'ai deux enfants, dont un qui habite sur Marseilleux, et qui vient me voir.
Vous lui dites de passer par la tête
tout le temps. C'est comme ça.
Vous avez constaté que c'est vraiment, c'est pas une légende, quoi, faire plus.
De toute façon, on peut que constater, vu tout ce qui se passe, les articles qu'il y a eu dans le journal,
Et selon vous, c'est ce qu'on dit, c'est que souvent les accidents sont dus à un endormissement, en tout cas de la fatigue, c'est ce que vous constatez le plus souvent? Bon, c'est vrai que c'est pas à vous de faire ce constat, c'est plutôt la gendarmerie, mais...
Oui, il y a la fatigue, je pense, oui, souvent. Après, la fatigue... Après, la responsabilité des gens, faut être prudent sur la route... Bon, c'est que les RCE, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le moindre écart, malheureusement, c'est un poids lourd. Donc voilà, après, éviter tout ce qui peut, toutes les causes d'inattention au volant. Donc tout le monde sait de quoi on parle quand même. On parle d'alcool.
Tout le monde sait de quoi on parle, vous êtes sûr?
Mais tout le monde le sait, mais voilà, après, c'est la
responsabilité. Il y a le téléphone.
Le téléphone, la cigarette. Les gens qui ont des traitements aussi, les gens ils pensent pas, mais ils ont des traitements pour certaines maladies, faut lire un petit peu ce qui est marqué sur le,
bah oui,
le descriptif, hein, parce qu'il y a des médicaments qui sont justement qui favorisent la somnolence, par exemple. Voilà, après.
Et les accidents que vous avez vus, enfin, que vous constatez, souvent vous, 10, hein, car 0,3, c'est plutôt dû justement à ces erreurs-là, ces fatigues, bah, plus qu'à vraiment une erreur de conduite manifeste, un dépassement excessif.
Au niveau des pompiers, nous, on constate pas spécialement, parce qu'après, c'est une enquête de gendarmerie.
Oui.
Après, oui, sur l'endormissement, oui, je pense que moi, personnellement, j'ai fait 2-3 accidents où.
C'était très net.
Enfin, net, on peut pas dire net, parce qu'on ne sait pas. Mm. Mais oui, à l'heure où c'est arrivé, les conditions, ça peut être l'endormissement.
Et alors, on parlait tout à l'heure des pompiers volontaires, des pompiers professionnels, comme vous, avec une formation. Qu'est-ce qu'il faut pour être un bon sapeur-pompier?
Moi, c'est simple. C'est pareil, qu'on soit volontaire professionnel, fille, garçon, il faut avoir l'envie et la motivation. Après, si on a envie et qu'on est motivé, qu'on soit volontaire professionnel, ça ne change rien.
Ça, c'est assez propre à tout métier, finalement.
Oui, c'est vrai, mais c'est quand même spécifique chez nous, parce que la formation est la même. Elle est plus longue pour les volontaires, parce que il faut quand même ils sont obligés de faire leur travail de tous les jours, plus se former, donc c'est un peu plus difficile. Il faut être motivé.
On va y revenir sur cette formation. Éric Ferrand, major, Éric Ferrand, membre du 10-03, le service départemental d'incendie et de secours, vient nous expliquer un peu ce qu'il est amené à faire, les interventions, les zones d'intervention. Je rappelle que vous êtes donc vous sur Moulins, mais que vous pouvez même intervenir d'ailleurs peut-être à Vichy si besoin est.
Sur les différents groupements, enfin moi et mes collègues qui sont officiers de sapeurs-pompiers, on peut intervenir sur les autres groupements en tant qu'officier. C'est-à-dire en tant que. Enfin, ça serait. En tant que chef de groupe, c'est difficile à expliquer comme ça à la radio, mais en tant que chef de groupe, on peut intervenir dans tout le département en fait.
En fait, voilà. Oui, voilà.
À partir de major, on a un rôle de chef de groupe et là on peut intervenir dans tout le département.
Alors je parlais justement avant la pause là, de ce qu'il faut pour être un bon sapeur-pompier, une formation. Quelle formation vous avez suivie?
Déjà au départ, on a une formation de base qui nous permet d'acquérir les premiers gestes de secourisme, d'incendie, d'opérations diverses. Et puis après, on peut évoluer. On a des spécialités chez nous, les plongeurs, les grimpes, les RCH, donc qui sont réservés aux sapeurs-pompiers professionnels, puisque pour l'instant, les volontaires n'ont pas accès à ces formations, mais c'est pas parce qu'ils sont volontaires, hein. C'est surtout que ça demande beaucoup d'entraînement, ça demande des recyclages permanents. Donc ça fera encore du travail en plus pour les volontaires, des formations en plus pour les volontaires. Et c'est vrai que ça serait difficile peut-être pour eux pour l'instant de les assumer. Parce que ça, plus la formation de base, plus leur travail, ça fait beaucoup.
Une formation de base qui dure combien de temps?
Alors pour les volontaires, elle dure sur 3 ans.
Et je suppose qu'après, il y a formation continue parce que vous avez toujours besoin
de connaître
des nouvelles techniques.
Donc sur 3 ans pour les volontaires, avec plusieurs modules à valider en 3 ans. Au bout des 3 ans, et ils ont leur formation de base. Et pour les professionnels, donc c'est sur, je dis pas de bêtises, 4 mois.
Et alors je suppose qu'il faut aussi des capacités quand même physiques. C'est pas n'importe qui peut s'improviser, secouriste.
Il faut un minimum de conditions physiques.
Et puis de résistance aussi. De résistance physique et de résistance psychologique.
Oui, il faut les deux.
Parce qu'à des moments, ce que vous voyez,
disons que c'est pas toujours facile.
C'est pas toujours facile. Vous avez une formation spécifique pour ça, on vous apprend maintenant?
Non, mais depuis 2-3 ans, c'est mis en place au sein du 10 avec le service santé, une cellule psychologique qu'on a utilisée.
C'est récent, 3 ans.
Je dis peut-être des bêtises.
C'est 4-5 ans, même si c'est 5 ans.
Donc elle est constituée de médecins et d'infirmiers. On a eu plusieurs interventions difficiles, notamment l'année dernière, au mois d'août l'année dernière. Et chaque fois qu'il y a une intervention difficile, ils interviennent. Et c'est vraiment. Enfin, moi, ce que j'ai pu en voir, parce que J'ai eu. Je suis intervenu sur 2-3 interventions difficiles où justement le service santé est venu après. C'est quand même efficace. Enfin, je trouve que c'est efficace, moi personnellement. Rien que de discuter, les médecins, discuter avec les gens après l'intervention, ce qu'ils ont ressenti, ce qu'ils en pensent. Voilà, ça libère un peu les idées de chacun, ça libère un peu tout ce qu'on a pendant l'intervention, tout ce qu'on a vu, qu'on a encaissé. Se libérer après avec des gens qui savent parler, parce qu'il faut savoir le faire, hein, c'est un métier quand même. Mm-hmm. Savoir discuter avec les gens pour faire ressortir leur ressentiment, quoi, éventuellement leur souffrance s'ils en ont une par rapport à l'intervention. Nous, pompiers, simples pompiers, on ne sait pas le faire. Ça.
Ouais.
Que les médecins, les infirmiers.
Mais c'est bien quand vous aide à le faire.
Ah oui, moi je. Après, j'ai discuté aussi avec mes collègues qui sont chefs de garde et on trouve quand même que. Parce qu'avant, on n'avait pas ça.
Bah oui, c'est gens, ce qui m'étonne, c'est que ça n'a pas été pensé plus tôt.
On rentrait d'intervention, voilà, c'était fini, ouais. Chacun rentrait chez soi.
Et vous gardiez ça pour vous finalement. Ouais. Avec,
Que là, voilà, ça permet de discuter et puis les médecins. Ils arrivent à voir si quelqu'un a besoin d'un suivi plus poussé.
Et vous n'avez pas envie de savoir que devient un blessé après? Vous préférez plutôt laisser de côté pour pas trop...
Je sais qu'il y en a qui arrivent à se renseigner un petit peu. Moi, je pense qu'il faut couper.
Oui, c'est ça. Ouais. Vous pensez que c'est plus utile parce qu'autrement, vous seriez
bouffé. Plus utile, je sais pas. Mais pour moi, je pense qu'il faut couper parce qu'après, si à chaque fois, on se renseigne... Comment ça s'est passé après? Après, ouais, faut savoir aussi, faut savoir couper.
La dernière chose.
L'intervention se termine, quoi. Voilà.
Ouais. Après, dernière chose, Major Ferrand, je voudrais qu'on ait temps de parler de votre site. Vous avez un site, hein, le www, bien sûr, habituel, .sdis.fr. Qu'est-ce qu'on trouve sur ce site? Tout ce qu'on veut savoir sur le site, 10, oui, sans donc, demander.
Comment devenir sapeur-pompier?
Par exemple,
soit volontaire ou professionnel. On a des informations sur la vie des sapeurs-pompiers de l'Allier. On peut avoir certaines interventions, certaines photos. Voilà, après,
quelques consignes peut-être aussi. C'est des gens qui disent
quelques ça. Consignes.
C'est pas facile à trouver. Ouais, non, mais c'est pas évident de donner ça sur un.
Sur certaines conduites à tenir par rapport à certaines situations.
Et quand vous parlez de photos, c'est quel type de photos?
Moi, c'est des photos des manœuvres, c'est un peu la vie des centres, la vie des pompiers du département.
Donc tout ce qui concerne la vie du SDIS. Ouais. Voilà. Et je suppose quand même qu'entre vous, le SDIS, hein, vous avez des moments un peu où vous essayez de... Bon, on parle de la vie du SDIS, donc vous essayez d'avoir d'autres rencontres que uniquement le travail, parce que vous vous rencontrez que sur les lieux d'accident.
Oui, bien sûr. Oui. Déjà, par centre de secours, chaque centre de secours est amical. L'amical des sapeurs-pompiers. Donc, ça permet justement de faire autre chose.
Peut-être vous sortir d'esprit des choses que oui. Pas très agréables que vous avez. Vous êtes combien, là, en gros, au total, je crois, vous êtes 200?
À peu près 200 professionnels et 1600 volontaires.
1600 volontaires, donc répartis sur l'ensemble du département. Est-ce qu'il y a des lieux où il n'y a pas assez de volontaires?
C'est le souci qu'on trouve en ce moment, c'est que des volontaires, on en a de moins en moins, c'est très difficile. Dans les petites communes, eh ben, évidemment, les jeunes s'en vont dans les grandes villes, parce que le travail est dans les grandes villes. Passé une époque, on avait des volontaires qui restaient au moins 20 ans volontaires. Maintenant, ça s'est beaucoup réduit, entre 5-6 ans, et puis après... Alors c'est dû parce que le jeune, il trouve du travail... ailleurs, enfin bon voilà, il y a plein de causes qu'on n'arrive pas à trouver, à garder les volontaires. C'est vrai que c'est difficile, le recrutement est difficile. Puis bon, la formation est
exigeante.
Est exigeante, ce qui est normal puisque les risques ont évolué depuis des années, quelques années. Puis il faut pouvoir le faire. Quoi. Puis bon, c'est vrai qu'on est dans une époque.
Donc vous recrutez.
On recrute.
Aussi bien les volontaires que les professionnels?
Les volontaires, parce que les professionnels, c'est un autre...
C'est un autre recrutement.
C'est un autre recrutement, et là, par contre, il y en a beaucoup qui ont concours et qui attendent. Donc,
Et pour passer le concours, il faut un diplôme spécifique ou...
Un brevet.
Un brevet, d'accord. Oui. Donc, tous ces renseignements, on les trouve sur votre site, justement.
Oui. Hein,
sur le sdis03.fr. Merci beaucoup,
Merci,
Eric Ferrand.